allons lire l'évangile de Luc chapitre 7 et j'aimerais que nous lisions à partir du verset 36. Luc chapitre 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus ?» Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Nous reviendrons tout à l'heure sur ce passage de Luc chapitre 7, mais avant cela, j'aimerais que nous lisions aussi un extrait du livre des Proverbes. Proverbes chapitre 16, verset 6. Proverbes chapitre 16, verset 6. Je vais vous lire ce verset en deux versions. D'abord la version Louis II. Il est écrit ceci. « Par la fidélité et la loyauté, la faute est expiée. Par la crainte du Seigneur, on s'écarte du mal. » Et en Darby, il est écrit ceci. Par la bonté et par la vérité, propitiation est faite pour l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Le sujet dont j'aimerais parler aujourd'hui, et que j'aborderai aussi la fois prochaine sans doute, c'est le sujet de la... comment le dire ? Ce que j'aimerais vous montrer, c'est que Dieu est avec les pécheurs. Dieu est avec les pécheurs. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parfois. D'autres sujets nous accaparent, et c'est normal, on évolue dans la connaissance des Écritures et des pensées de Dieu. Mais il est bon de se rappeler, de ne pas oublier, que Jésus-Christ est avec les pécheurs. Il n'est pas forcément d'accord, et souvent pas d'accord avec ce que les pécheurs vivent, mais il est de leur côté. Dans ce passage-là, dans ces versets du livre des Proverbes, il y a un enseignement qui nous est donné qui est très intéressant. C'est qu'il nous est dit que par la bonté et par la vérité, propitiation est faite. C'est intéressant parce que la propitiation, c'est-à-dire essayer d'avoir les faveurs de Dieu, cette propitiation est tenté d'une autre manière très souvent, quand on a une pensée religieuse. On essaye d'obtenir les faveurs de Dieu par un sacrifice, ou des sacrifices, par nos bonnes actions, par notre culpabilité, nos remords, nos déceptions, notre justice propre. Mais là, il est dit que le meilleur moyen d'avoir un regard favorable de Dieu envers nous, le meilleur moyen de l'obtenir, et je dirais le seul moyen, c'est par la bonté et la vérité. Par la bonté et la vérité. Ce qui est intéressant là, c'est que le mot « fidélité » en second, ou « bonté », c'est un mot dont on parle assez souvent, c'est le mot « hesed » en hébreu, qui parle en effet de bonté, de miséricorde, d'amour, de faveur, de grâce. Rappelez-vous qu'en Jean chapitre 1, il nous est dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et ce verset de Proverbe est le pendant de ce verset des Évangiles. Parce que la bonté et la vérité, c'est la personne de Jésus-Christ en réalité. Et c'est pour ça que la bonté et la vérité nous permettent d'obtenir propitiation. C'est par Jésus-Christ que nous obtenons ce regard favorable de Dieu envers nous. On a tous tendance à faire attention au regard des autres. Comment cette personne me voit, comment ces personnes me voient, comment les gens me regardent, comment mon chef me regarde, comment mes parents me regardent, que pensent mes enfants de moi. Et donc on a tendance à avoir un comportement, un accoutrement aussi, parce que l'apparence physique peut jouer, où on essaye de séduire le regard des autres. Et jusqu'à même parfois les manipuler. Mais avec Dieu, on sait que c'est pas possible. Parce que Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas l'apparence. Je peux faire semblant d'être chrétien, je peux faire semblant d'être optimiste, je peux faire semblant d'être joyeux, je peux faire semblant d'être rempli du Saint-Esprit. Mais je sais que ce que Dieu regarde, c'est le fond de mon cœur. Et du coup, je me pose la question, quel est le regard de Dieu envers moi ? Est-ce qu'il porte un regard favorable sur ma vie ? Et c'est pour ça que la nature humaine, partout dans le monde, lorsqu'elle a une conscience de Dieu, se débat avec ce regard de Dieu. Et les religions sont inventées pour essayer d'amadouer Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit que propitiation est faite, c'est-à-dire, encore une fois, rendre propice, avoir une attitude, une façon de penser, être même. Comment tout cela peut plaire à Dieu ? Ça plaît à Dieu lorsque nous appuyons sur sa bonté et sur sa vérité. Donc, lorsque nous appuyons sur Jésus-Christ. Pour le dire autrement, avez-vous confiance dans le fait que Dieu vous aime ? Avez-vous confiance dans le fait que Dieu a des pensées de paix et non de malheur pour vous ? Avez-vous confiance en Dieu sur son regard favorable à votre égard ? Pensez-vous que Dieu est en paix avec vous ? Et parce que vous recevez sa paix, vous pouvez être en paix avec lui. Vous savez, le mot fidélité, bonté, donc parle de miséricorde, d'amour, de grâce. Et si second traduit ensuite le deuxième mot par loyauté, en réalité Darby est plus précis, en tout cas sa traduction me plaît plus, c'est le mot vérité. Ce mot vérité qui parle d'un témoignage, d'un jugement, mais surtout d'une instruction, c'est-à-dire ça parle même de la doctrine. C'est la doctrine que l'on croit, la doctrine que Dieu nous enseigne au travers des Écritures. Cette vérité qui nous est proposée, lorsqu'elle est crue, l'expiation est faite. Alors vous allez me dire, mais comment un enseignement peut effacer tous mes péchés ? En anglais, c'est très intéressant d'ailleurs, parce que c'est pas le verbe expier, enfin dans la version King James, c'est le verbe purger qui est utilisé. C'est-à-dire que par la bonté et la vérité, mon péché est purgé ou purifié. Comment une vérité, comment un enseignement peut purifier mes péchés ? En réalité, c'est parce que la vérité, la Bible, la doctrine, les enseignements que contiennent les Écritures, nous racontent une histoire aussi. Nous racontent l'histoire de Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Et Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. La Bible nous explique ça. C'est un enseignement, c'est la vérité. Ce qui fait que quand je crois dans un enseignement sur l'amour de Dieu, par exemple, sur le péché, sur la miséricorde de Dieu, sur le pardon, lorsque je crois tous ces enseignements, le Saint-Esprit me convainc, me sanctifie, me sauve aussi d'ailleurs, parce qu'au départ, nous croyons en Jésus-Christ et dans l'histoire biblique contenue dans les évangiles et qui nous parle du Messie. Et lorsque nous croyons, nous sommes régénérés, mais jour après jour, nous continuons d'être sanctifiés. Notre péché est purgé. Nous sommes purifiés de jour en jour par la vérité. Cette vérité qui pourrait nous accuser, qui pourrait nous culpabiliser, mais qui normalement ne produit pas ce résultat, parce qu'à côté nous avons aussi, nous croyons dans la bonté de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, dans le fait que Dieu est pour le pécheur. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits. Alors je sais que dans les évangiles, Jésus va dire par exemple « Soyez parfaits comme moi, je suis parfait. On doit tendre à la perfection, mais vers la perfection. » Bien entendu, Dieu a des exigences, mais néanmoins, il sait de quoi nous sommes faits, il sait que nous sommes poussière, et il ne se fait aucune illusion sur la nature humaine. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Souvent, nous, on a tendance à vouloir mettre de côté ça, à ne pas l'accepter. Mais il est difficile de se confesser si on n'accepte pas de regarder aussi en face ce que nous sommes. Mais ce que nous sommes n'empêche pas l'amour de Dieu envers nous, parce que la vérité nous dit que Jésus-Christ est mort pour tous nos péchés. Et lorsque j'intègre la vérité, et lorsque j'intègre la bonté, la miséricorde de Dieu, expiation est faite pour mon péché. Prenons le cas de 1 Jean 1,9, lorsqu'il est dit « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Qu'est-ce que ce verset veut nous instruire si on le met en parallèle avec ce que je suis en train de dire? Dieu nous décrit toutes les formes de péché. Nous reconnaissons dans notre vie certaines choses contenues dans les Écritures et que nous expérimentons et qui ne plaisent pas à Dieu. Nous les confessons. Nous confessons nos péchés. La vérité commence à produire du fruit. Mais la vérité nous dit aussi que Dieu veut nous pardonner de nos péchés parce qu'il a payé le prix. Donc, cette vérité n'est pas uniquement là, et n'est pas là d'ailleurs pour me condamner, elle est là pour révéler quelque chose qui ne va pas, me sanctifier grâce à la bonté que m'accorde l'Éternel. En d'autres termes, je suis gracié en permanence. Et c'est comme ça que je rentre dans ce processus de sanctification jour après jour. La grâce a été manifestée à tous les hommes afin de nous convaincre de renoncer à l'impiété. Et trop souvent, on a dans notre façon de penser ou de faire, on a tendance à croire qu'il nous faut faire des offrandes, faire des sacrifices, qu'on n'a pas suffisamment payé le prix pour être accepté par Dieu. Alors qu'en réalité, l'iniquité ne peut pas être enlevée par nous-mêmes. Je peux faire tous les sacrifices que je veux, je peux prendre toutes les bonnes résolutions, pardon. Je ne peux pas enlever l'iniquité de ma vie. En Jérémie, il y a un verset qui nous dit que le léopard ne peut pas effacer ses taches. Et il n'y a que Dieu qui peut enlever les taches d'un léopard, et il n'y a que Dieu qui peut enlever les taches qu'il y a dans mon âme. Et la vérité et la bonté de Dieu peuvent le faire. Vous savez, lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons que Jésus-Christ, jour après jour, chapitre après chapitre, verset après verset, Jésus était avec les pécheurs en permanence. Jésus est allé chercher ce qui était perdu. Combien de fois nous aurions tendance à penser que Jésus va chercher ce qui est trouvé? Jésus ne cherche pas ce qui est trouvé, il cherche ce qui est perdu. Ce qu'il nous faut, nous, accepter, c'est de se reconnaître comme perdu. Alors, soit perdu s'agissant du salut, mais aussi parfois on est perdu durant notre chemin qui est le nôtre en tant que chrétien. Mais le fait d'être perdu n'est pas un problème si on se laisse trouver par Dieu. Mais combien de fois on veut trouver nous-mêmes la solution ? Quitte à utiliser la doctrine, quitte à utiliser la Bible pour s'en sortir avec l'énergie de la chair, comme si le Nouveau Testament n'avait pas été écrit. Et du coup, on se retrouve comme un juif dans l'Ancien Testament, sous une loi chrétienne, une loi dénominationnelle, une loi religieuse. Mais Dieu nous appelle à une liberté. Vous savez, en Proverbe 16, 11, il est dit que le poids et la balance justes sont à l'Éternel. Le poids et la balance justes sont à l'Éternel. Comment vivre la vie chrétienne de façon équilibrée ? Par la bonté et par la vérité. Je ne peux pas en éliminer un au profit de l'autre. Ce sont les deux facettes du plan de Dieu pour ma vie que je dois accepter. La balance juste est à l'Éternel, la grâce et la vérité. Je ne peux pas connaître Jésus-Christ dans ma vie si je suis un obsédé de la grâce en oubliant la vérité. Parce que penser à la grâce sans la vérité, c'est pas connaître la grâce en réalité. C'est connaître la grâce selon notre propre terminologie, notre propre définition. La grâce, la définition de la grâce, je peux la connaître que par la vérité. Et de la même manière, si je regarde qu'à la vérité, je réalise que je ne suis pas au niveau. La vérité n'est pas au fond de moi. Mais donc, j'ai besoin de la grâce pour pouvoir survivre. Donc, la vie chrétienne consiste à avoir en permanence la grâce et la vérité. Et d'ailleurs, il va en être de même dans nos relations fraternelles. Nous avons besoin des deux. Nous avons besoin de vivre dans la vérité, mais nous avons besoin d'expérimenter la grâce ensemble aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Proverbe 11.1, il est dit que la balance fausse est une horreur à l'Éternel. Il ne s'agit pas de dire simplement « ça ne lui plaît pas ». Il l'a en horreur. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. Et lorsqu'il était sur la terre et qu'il discutait avec les pharisiens, et quand on voit la manière dont il les reprenait, nous sommes certains là qu'il est en train de leur dire, votre balance est fausse. Parce qu'ils étaient toujours en train de promulguer la loi sans la miséricorde. Le problème, c'est que s'il n'y a pas la miséricorde, le jugement prévaut, la condamnation prévaut, et on ne fait pas du bien à notre prochain, et Dieu ne pourrait pas nous faire du bien s'il y avait que le jugement. Non, c'est la miséricorde triomphe du jugement. Mais les pharisiens n'avaient pas ce cadre de référence. Et c'est pour ça que Jésus en permanence était avec les pécheurs, mais s'opposait à ceux qui avaient une balance complètement fausse. Parce que cette balance est une horreur. Pour lui. Il ne la supporte pas. Et il y a beaucoup de chrétiens qui, malheureusement, portent des fardeaux inutiles, ne vivent pas dans une forme de liberté que Dieu leur propose, tout simplement, parce qu'ils ont à la main une balance qui est abîmée, cassée, falsifiée. On voit en Luc 7, c'est peut-être au chapitre 6, je ne sais plus. Mais au verset 33, il est parlé de la façon dont les gens voyaient Jésus. Et Jésus dit, Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. C'est intéressant parce que Jésus était vu comme un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, et ça lui était reproché. Alors que lui ne vivait pas comme les publicains, les gens de mauvaise vie. Tout comme lorsqu'il est dit, il est avec des gens qui font la fête, hein, c'est un mangeur et un buveur. Non, Jésus se saoulait pas. Mais il pouvait être avec des buveurs. Mais c'est pas parce qu'il était avec eux qu'il était comme eux. Mais il était avec eux pour que eux deviennent comme lui. C'est en étant avec eux que la solution était offerte. Par le ministère de Jésus, ces buveurs, ces mangeurs, ces publicains, ces gens de mauvaise vie pouvaient être transformés. Et donc, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, c'est-à-dire que Dieu n'attend pas que le pécheur soit parfait pour que Dieu pose un regard favorable sur lui. Non, le pécheur réalise que Dieu a déjà un œil favorable sur lui. Alors que nous étions encore pécheurs, Dieu est mort pour nous. Et donc, les publicains étaient encore publicains, mais Dieu s'approchait d'eux par Jésus-Christ. Les prostituées étaient encore prostituées, mais Jésus s'approchait d'eux. Et de la même manière, nous, qui ne sommes pas parfaits, avons l'assurance que Dieu s'approche de nous en permanence et qu'il a une solution à nous proposer. Mais cette solution, elle passe par la sanctification proposée par un ami, pas par quelqu'un qui nous teste ou qui veut nous piéger ou qui est malicieux ou qui veut nous punir. Non. Nous avons un Seigneur qui est avec le pécheur. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'était pas jugé pour ce qu'il faisait, en l'occurrence, là, dans ces passages. Il était jugé en fonction de ses compagnies. C'est-à-dire que, en fonction des gens avec qui il était. Comme il est avec ces gens-là, donc, c'est quelqu'un qui n'est pas au clair. Mais c'est pas ça du tout. Jésus était là avec les pécheurs parce que Jésus était venu chercher ce qui était perdu. Parfois dans notre vie, on se sent perdu. J'ai une bonne nouvelle à vous dire. Jésus vous cherche dans l'état où vous êtes. Il n'attend pas que vous vous retrouviez pour que lui devienne disponible. Il est disponible pour ceux qui sont perdus. Nous avons un Dieu qui est sans cesse présent pour nous accueillir, pour nous consoler, pour nous reprendre, pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous indiquer la bonne direction. Vous savez, une brebis, elle peut être dans un troupeau pendant des années. Elle va suivre le berger pendant des années. Enlevez le berger d'un troupeau. Même la brebis la plus ancienne ne trouvera pas de vert pâturage. Elle aura toujours besoin d'un berger. Et nous, tant que nous serons sur la terre, nous aurons besoin d'avoir un Dieu qui est l'ami des pécheurs, qui est l'ami de ceux qui ne comprennent pas toutes les situations, qui sont parfois désarçonnés, interrogatifs, qui tombent, qui se trompent, qui doute. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'un berger. Et le berger n'est pas disponible pour les brebis qui savent se diriger. Le berger est disponible pour les brebis qui veulent bien le suivre. C'est ça la différence. Les pharisiens, avec toute leur suffisance, n'avaient pas envie de suivre Jésus. En revanche, les pécheurs avec qui Jésus souvent se trouvait se mettaient à suivre Jésus. Après, leur vie était transformée par la grâce et la vérité. Et ces personnes qui suivaient Jésus entendaient ses discours, et ses discours ne changeaient pas. Il parlait toujours du péché, il parlait toujours du cœur de l'homme. Il reprenait ses disciples. C'est-à-dire que la vérité était toujours là. Dieu ne se faisait pas des amis en, en diluant son discours, la vérité était toujours prêchée, mais la grâce était présente aussi, en permanence. Ce qui fait que parfois, même avec ses apôtres les plus proches, il pouvait en avoir ras-le-bol, hein, de temps en temps, on le voit, il s'énerve un peu, mais il les a jamais abandonnés. Parce que Jésus est l'ami des pécheurs. Même de ses amis les plus fidèles qui l'ont oublié à un moment donné. Il a continué d'être fidèle envers eux. Parce qu'il était la grâce et la vérité. Et c'est ça qu'on doit avoir en tête. C'est-à-dire que l'objectif de Dieu d'être avec nous a un objectif principal, c'est d'être transformé par sa présence. C'est de lui dont nous avons besoin. C'est pas d'un mode d'emploi. C'est pas d'une loi. Ce ne sont pas des recommandations, d'une feuille de route. Non. C'est une communion avec lui. Une communion où on va des fois le remercier parce qu'on a obtenu une victoire dans notre vie, ou qu'on a passé un bon moment, une bonne période, une bonne saison, et parfois c'est vrai, tout va bien, et on va le louer pour ça, on est en communion avec lui, tout va bien. Mais on peut être en communion avec lui quand tout va mal. Et je ne dis pas ce qu'il faille pour ça absoudre le péché, ou dire que le péché n'a pas d'importance, loin de là. Ce genre d'attitude, Dieu n'approuve pas. Dieu est avec les pécheurs qui reconnaissent leur état et qui veulent être transformés, mais qui n'en ont pas la capacité par eux-mêmes. C'est aussi simple que ça. Ceux qui pensent que le péché n'est pas un problème, bon, du coup, ils n'ont pas besoin de Dieu puisqu'ils n'ont pas envie d'être transformés. Et donc, ils ne sont pas en communion avec Dieu. Celui qui est en communion avec Dieu, c'est celui qui va dire à Dieu, « Seigneur, tu as écrit dans la vérité, dans la Bible, que sans toi, on ne peut rien faire. » Ben voilà, là j'ai un problème. J'ai un problème, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Et en même temps, je sais que ta vérité est parfois dure à entendre, mais dans cette même vérité, je sais que tu es bon, tu es miséricordieux, tu es avec le pécheur. Tu n'es pas avec le propre juste. Tu es avec ceux qui sont perdus. Et vous savez, on voit ça en permanence. Je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, mais pensons à la chute en Genèse chapitre 3. Adam et Ève chutent. Qu'est-ce que Dieu fait ? Il vient auprès des pécheurs. Il vient annoncer un jugement, c'est vrai, mais il vient annoncer aussi une promesse. C'est que de la descendance de ces pécheurs va naître le salut. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire qu'on y pense, quand on y pense. Adam et Ève se cachent, s'éloignent de Dieu à cause de leur culpabilité, mais on pourrait se dire, Dieu, dans sa sainteté et sa justice, devrait encore plus s'éloigner des hommes. Si Adam et Ève peuvent s'éloigner de Dieu quelques kilomètres, quelques centaines de mètres, peu importe, Dieu lui va s'éloigner du pécheur d'une manière infinie. C'est un abîme, c'est plus possible. Non. Dieu vient et appelle en disant « j'ai des choses à vous dire ». Même vis-à-vis de Caïn, Caïn, un meurtrier, qu'est-ce que Dieu lui dit ? « Si tu fais bien, ton péché va être couché à la porte. » Dieu vient auprès d'un meurtrier, d'un pécheur. Lorsque Noé, après avoir construit un bateau pendant un siècle, après avoir passé une année sur les eaux, se prend une bonne cuite. Il boit, il se saoule. Et sa nudité est vue par un de ses fils. Sa faiblesse est vue par un de ses fils. Son péché est vu par un de ses fils. Et ce fils, évidemment, c'est le type du religieux, de celui qui pointe du doigt, de celui qui regarde, de celui qui décrit, de celui qui découvre la faute de l'autre. Les autres n'ont pas voulu voir la nudité de leur père. Ils ont couvert la faute. Qui Dieu a béni ? Les deux autres frères. Celui qui a découvert le péché du père a été châtié. Parce que Dieu est avec le pécheur. Dieu était avec le croyant. Dieu était avec Noé. Il n'était pas d'accord avec ce que Noé avait fait. mais il a défendu Noé. Dieu est notre médiateur et notre avocat auprès de ceux qui accusent. Dieu était avec Lot. Lot qui voulait vivre à Sodome et Gomorre. Lot qui a, après avoir bu lui aussi, a été incité à coucher avec ses filles. Et de là, deux nations sont nées et deux nations qui ont fait beaucoup de mal à Israël. Mais l'épître de Pierre nous dit que Lot était juste. Pourquoi ? Parce que Lot avait cru en Dieu. Lot était pécheur, Dieu le savait. Mais n'empêche qu'il a reçu par la grâce le salut. Il a été châtié, il a récolté ce qu'il a semé, voilà. Il a commis des péchés, il y a eu des résultats. Mais il est dit en même temps dans l'épître de Pierre que son âme était torturée de voir le péché autour de lui. Dieu est avec le pécheur. Et il a utilisé un de ses serviteurs, Abraham, pour le sortir de certaines situations. Il a répondu aux prières d'Abraham. Il a permis qu'Abraham aussi, à un autre moment, lève une armée pour qu'il soit délivré alors qu'il était prisonnier. Lot était sous le regard bienfaisant de Dieu, le regard miséricordieux de Dieu. On continue la liste. Dieu était avec Jacob, celui qui ment, celui qui triche, celui qui s'arrange pour obtenir la bénédiction à la place de son frère. Il va être châtié par Dieu, parce que quel est le fils qui n'est pas châtié par son père ? Mais Dieu était avec Jacob. Dieu n'a jamais abandonné Jacob. Dieu a béni Jacob au pays de Laban. Dieu a béni Jacob à son retour. Et Jacob a hérité du droit d'aînesse parce que Dieu a préféré la foi de Jacob à l'incrédulité d'Ésaü, quand bien même celui-ci aurait vécu selon une justice propre et religieuse. Dieu était avec Jacob. Vous avez les frères de Joseph, jaloux de la vision que Dieu a donnée à Joseph, jaloux de l'amour que le père avait pour Joseph, jaloux de sa robe bigarrée, jaloux de son existence. Et donc ils sont prêts à le tuer, puis finalement ils le vendent à des marchands. Dieu, qui est miséricorde et vérité, va utiliser Joseph pour bénir les autres frères et accomplir les promesses faites à Abraham. Dieu est avec les pécheurs. On voit tout ça dans le livre des Juges, où en permanence le peuple de Dieu s'éloigne de la vérité, où il y a une dégradation morale et spirituelle qui progresse de décade en décade. Mais à chaque fois que le peuple se met à crier, Dieu suscite un libérateur. À chaque fois, pas une fois dans le livre des Juges, vous verrez après des tonnes et des tonnes de péchés, vous ne verrez Dieu dire « Je vous écoute plus, c'est trop tard maintenant, vous en avez trop fait ». À chaque fois, Dieu répond à ceux qui se tournent vers lui. Dieu est avec le pécheur qui croit dans la miséricorde de Dieu, qui croit dans la vérité de Dieu. Et que Dieu fait à chaque fois ? Il envoie un libérateur. Est-ce que ces libérateurs sont parfaits ? Non. Voyez Samson. Samson va faillir, mais Samson va être restauré et tuer plus de Philistins le dernier jour de sa vie qu'il en aura tué tout au long de sa vie auparavant. Dieu n'a pas abandonné Samson. Dieu a châtié Samson. Mais Dieu a toujours été avec Samson. Parce que Dieu est avec le pécheur. Vous avez le prophète, celui qui reçoit des dons extraordinaires, qui devine les choses, qui peut invoquer le feu du ciel, Élie, qui à un moment donné déprime, doute, en a marre, parce que lui aussi a sa propre justice. Il oublie lui aussi que Dieu est avec les pécheurs, et donc il envoie tout balader. Qu'est-ce que Dieu fait ? Il envoie un ange, le fortifier, le nourrir, Et ensuite, il permet que ce serviteur soit dans une caverne et soit touché par l'Esprit de Dieu pour être vivifié, restauré. Pour le relancer dans son appel. Pour lui redonner une nouvelle vision. Parce que Dieu est avec le pécheur. Il n'est pas avec le serviteur parfait qui marche sur les eaux, qui vole comme un ange et qui commet jamais de péché. Il est avec un serviteur qui parfois va tomber, mais il va le restaurer. Et même, il va pourvoir au-delà de ce qu'il pouvait imaginer en lui offrant, je dirais, un serviteur en la personne d'Élisée. Parce que Élise, en fait, vivait un peu seul. Il a besoin d'être encouragé, il a besoin d'un disciple à ses côtés. Et donc, il lui envoie Élisée. Dieu est avec le pécheur en permanence. Est-ce qu'il n'a pas été avec David ? Est-ce que David a été parfait durant toute sa vie ? Bien sûr que non. Alors évidemment, on connaît son adultère avec Bathsheba, le meurtre d'Uri, mais ça, c'est évidemment, c'est, je dirais, le sommet. Mais pensez à toutes les femmes qu'il a eues. Alors, c'était autorisé. Le roi avait le droit d'avoir un harem, etc. Ça, c'est un autre enseignement. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu était d'accord avec cette façon de vivre ? Bien sûr que non. Mais est-ce que Dieu a abandonné David malgré sa vie, où on peut dire sa vie familiale n'est vraiment pas une réussite pour David, et ça a été son châtiment. Néanmoins, Dieu a été avec David jusqu'à la fin. Et David, d'ailleurs, a exprimé le caractère de Dieu en étant lui aussi avec les pécheurs, en étant avec Saül, en étant avec Absalom, en voulant pardonner à chaque fois. Parce qu'il connaissait son Dieu qui était avec les pécheurs, que lui-même était, et donc il manifestait cette grâce envers les autres. Un des pires rois de l'Ancien Testament, qui est-il ? Quelqu'un le connaît ? Manassé. Hein ? On a parlé l'autre fois dans le séminaire d'Ésaïe de Achaz, déjà lui il en a fait pas mal, mais Manassé c'est pire encore. Le pire des rois. Le pire des idolâtres. Le pire. Vous pensez à un dirigeant corrompu, pensez à Manassé. Et il va être châtié. Il va être envoyé à Babylone. Et dans sa cellule, il va invoquer l'Éternel. Il va se tourner vers Dieu, ce Dieu de grâce et de vérité. Et qu'est-ce que Dieu va faire ? Il va permettre qu'il soit libéré et qu'il revienne à Jérusalem. Manassé. Nous avons un Dieu qui est avec les pécheurs. Prenons le Nouveau Testament. Dieu cherche des disciples. Qui va aller chercher, entre autres, un collabo, un arriviste, celui qui se fait de l'argent sur le dos des autres. Il va voir Lévi, qui va devenir Matthieu, et dit « Toi, suis-moi ». Parce que Lévi va tourner son regard vers la grâce et la vérité, son péché, son iniquité vont être expiés. Il va être de nouveau pur aux yeux de Dieu. Il va recevoir un regard favorable de la part de Dieu. Parce qu'il était parfait, parce qu'on peut pas dire que lui, il se mortifiait de l'argent dont il profitait sur le dos des autres. On sent pas un cœur repentant. Mais à la lumière de la personne de Jésus-Christ, devant cette révélation qui lui est communiquée, cette attirance vers la vie éternelle, il abandonne tout et suit Jésus. Et Jésus dit, viens. Et ça nous renvoie dans l'Ancien Testament à Barak, qui avait que des gens de mauvaise vie avec lui, des truands, des voleurs de grand chemin, et c'est eux qui vont être l'armée qui va libérer Israël. De même, David, il avait qui avec lui ? Des gens qui avaient des dettes, des gens qui étaient exclus de leur famille, les rebuts du royaume. Et ça va être ceux qui vont suivre David. Tout simplement parce que David exprimait le caractère de Dieu. Non, c'est pas Barak, c'est Jephté. Et tout comme Jephté manifestait aussi le caractère de Dieu. Dieu est avec le pécheur en permanence. Avec qui il était près d'un puits ? Avec la femme qui avait eu 5 maris et qui là vivait avec quelqu'un sans être marié ? À qui il annonce la bonne nouvelle ? À quelqu'un de juste ? Envers qui il manifeste la grâce et la vérité ? Envers quelqu'un qui ne cherchait peut-être pas à sortir de son quotidien, Mais cette femme, devant la grâce et la vérité, a commencé à être transparente. Elle a confessé sa vie. Elle a posé des questions. Elle s'est interrogée. Et qu'a fait Jésus-Christ ? Il était avec cette femme pécheresse qui avait un besoin et il a répondu. Qu'est-ce qu'il a fait avec Zachée ? Le salut est entré dans cette maison, il faut que j'y mange. Il était l'ami des gens de mauvaise vie. Il a mangé avec Zachée parce que Jésus est avec le pécheur. Pierre, qui se trompait tellement de fois, qui était zélé et qui en même temps, ben voilà, était subjectif. Je pensais à ce passage, vous savez, où il dit à Pierre, « Tu sais Pierre, j'ai prié pour toi parce que le diable, il a voulu te cribler. » Jésus est avec le pécheur et il intercède pour les pécheurs. Non seulement il est à nos côtés, mais il est à côté du Père en notre faveur, pour notre profit, pour notre avantage. Ça, c'est notre Dieu qui s'occupe de nous. Même quand je n'ai pas l'impression de le voir dans ma vie, je sais qu'il intercède pour moi. Je sais qu'il est auprès du Père et qu'il présente le sang, il présente son œuvre. Et grâce à Jésus-Christ, grâce à la grâce et la vérité, mon péché est expié et le Père répond, parce que je suis en Christ. On connaît tous la femme adultère qui lui est présentée, avec les pharisiens, les docteurs de la loi qui sont là prêts à lapider la femme et qui essayent de le piéger. De quel côté était Jésus ? De la part de ceux qui l'accusaient ou est-ce qu'il était avec la femme adultère ? On voit bien son choix est vite fait. Il a défendu la femme pécheresse. Parce qu'elle était perdue, eux, ils croyaient qu'ils n'étaient pas perdus. Ils n'avaient pas besoin de Jésus. Ils avaient peut-être une petite dette envers Dieu, semble-t-il. Mais ils n'aimaient pas Jésus. Par contre, cette femme, elle n'essayait pas de se justifier. Elle se taisait. « Je suis coupable. » Et Jésus lui a dit « Va et ne pêche plus. » Jésus, sur la montagne des Oliviers, voit la Jérusalem et il se met à pleurer en disant « Je vous ai tellement envoyé de prophètes. Vous les avez lapidés, vous les avez rejetés, vous avez rejeté la vérité. » Et derrière ça, il est en train de dire « Et vous continuez de me rejeter. » Mais que fait Jésus ? Il pleure parce qu'il voit des pécheurs. Il pleure. Il aurait très bien pu dire, vous allez voir ce qui va vous arriver, vous allez voir dans quelques dizaines d'années, Titus, je vous fais une prophétie, va raser Jérusalem. On sait que c'est ce qui s'est passé après. Mais non, là, il pleure. Il pleure. J'ai tellement fait pour vous et j'aimerais tellement faire encore. Et Dieu, est-ce qu'il n'est pas des fois en train de nous dire aujourd'hui, mais j'aimerais tellement faire pour toi. J'aimerais que tu reçoives mon pardon, j'aimerais que tu reçoives la vérité, j'aimerais que tu reçoives une vision pour ta vie, j'aimerais que tu reçoives de la consolation, j'aimerais que tu aies de l'assurance, j'aimerais que tu sois restauré, j'aimerais que tu aies une nouvelle identité, j'aimerais que tu croies dans mon regard favorable envers ton âme. Et nous on va répondre, mais qu'ai-je à offrir Seigneur en échange ? La réponse c'est rien, je reçois avec humilité. Je reçois. Merci Seigneur parce que tu m'aimes. Je ne sais pas comment tu fais, mais tu m'aimes. Je suis la prunelle de tes yeux. Pensez au temps que Jésus a passé avec Nicodème, un pharisien, qui est un docteur de la loi, qui devrait connaître plein de choses. Et Jésus le reprend, hein. Toi qui es docteur de la loi, ne sais-tu pas ces choses ? Mais Jésus est avec le pécheur et il répond à ses interrogations. Il lui enseigne la vérité. Il lui manifeste la grâce en le recevant et il lui enseigne la vérité pour que Nicodème puisse avoir les yeux ouverts parce que Dieu est avec les pécheurs. Et puis nous avons lu là, en Romains 7, cette femme Et on en reparlera la prochaine fois, sans doute mercredi, mais déjà juste pour vous dire, de voir cette femme, on a Simon le pharisien qui invite Jésus. Elle, elle n'est pas invitée. Elle n'est pas invitée. C'est une grande pécheresse. Et Simon, qui a invité Jésus, connaît cette femme, puisque plus tard il va dire, s'il savait qui elle était, hein, il ne se laisserait pas toucher par elle. Donc, elle est connue de tous, apparemment. Mais cette femme est tellement attirée par la grâce et la vérité, que malgré sa honte, parce qu'elle a honte, elle pleure, elle est derrière Jésus à ses pieds, elle s'est invitée. C'est pas Simon qui l'a invitée, elle a forcé les portes, parce que la vie était là. Il y avait les accusateurs autour, mais il y avait la vie. Elle savait qu'au pied de Jésus, il y avait la grâce et la vérité. Il y avait quelqu'un qui était avec elle. Quelqu'un qui était pour elle, quelqu'un qui allait la recevoir, quelqu'un qui allait la voir d'une manière différente que dans son statut de prostituée, qui allait voir au-delà de ce qu'elle faisait. Elle voyait qui elle était, cette âme seule, vide, désespérée, blessée, souillée, salie. Elle avait besoin d'être purifié par l'amour de Dieu. Par la grâce et la vérité, l'iniquité est purgée. Si vos péchés sont comme le cramoisi, dit Ésaïe, ils deviendront blancs comme la neige. Parce que moi, je vais pouvoir les laver? Non. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Rappelez-vous Romains 5:8. Dieu prouve, le verbe prouver là, Dieu prouve, il prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et durant son ministère terrestre, Dieu prouvait son amour alors que les gens étaient encore pécheurs pour être avec eux. Il était avec la femme adultère, il était avec la femme au puits, il était avec Matthieu, il était avec Zachée, il était avec tous ceux qui étaient des gens de mauvaise vie. Quitte à ce que ça ternisse sa propre réputation, mais il s'en fichait, il vivait sous le regard du Père. Il prouvait son amour, un amour inconditionnel qui fait que chaque pécheur peut avoir l'assurance d'être sauvé par Dieu, d'être restauré par Dieu, d'être vivifié par Dieu, d'être accueilli par Dieu, d'être renouvelé par Dieu, etc., etc., par Dieu. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Donc mes amis, rien de nouveau cet après-midi. Mais simplement, j'avais à cœur qu'on se remémore cette vérité. Dieu est avec les pécheurs.